Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, et aujourd'hui, on parle de ces femmes qui estiment avoir été des mamans absentes, mais qui aujourd'hui sont des grands-mères très présentes. Maman absente, j'ai été une super grand-mère, voilà le formidable thème de l'émission et du podcast d'aujourd'hui. Vous allez entendre Christine qui vient avec sa fille Alexine, Alexine qui est maman de Céleste, donc Christine et Alexine, et puis nous serons avec une psy qu'on aime beaucoup juste après, c'est Nicole Prieur, c'est parti.
De nombreuses raisons, il est parfois, on est parfois une mère qui n'est pas très présente, hein, ça arrive, moins présente en tout cas que ce qu'on souhaiterait, mais cette absence évidemment distend les liens mère-enfant et mère-fille spécifiquement. Et puis l'arrivée d'une nouvelle génération et l'entrée dans la grand-parentalité peut resserrer les liens. Bonjour Christine.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman d'Alexine. Bonjour Alexine.
Bonjour.
Et la grand-mère de Céleste. Salut Céleste.
Salut, salut Céleste.
Coucou ma poupée. Ah oui, j'ai mon petit sourire quand même. Céleste, tu as un an, tu es venue nous parler de ton histoire.
Oui,
c'est bien ça. Alors c'est vrai, Christine, vous étiez très très préoccupée par votre vie professionnelle. Il faut dire que vous aviez un métier... Alors apparemment, il y a Céleste qui touche un micro, donc il faut faire juste un petit peu attention que ça ne frotte pas qu'on vous entende bien. Donc je le disais, vous avez été un petit peu absente du quotidien de votre fille, notamment pendant son adolescence. Pour vous, Alexine, du coup, période très difficile. Vous êtes un petit peu autogérée, vous allez nous raconter ça. Et puis finalement, le lien entre toutes les deux, c'est renforcé, c'est assaini avec l'arrivée de Céleste, puisque vous êtes, Christine, à la fois une super grand-mère et puis une maman très présente depuis l'arrivée de votre petite fille. Merci d'être sur ce plateau pour nous raconter votre histoire. Christine, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se découper vos journées concrètement et vos moments avec Alexine pendant sa petite enfance?
Alors, quand Alex était tout petite, donc j'étais infirmière. Donc je faisais ce qu'on appelle être postée, donc je faisais 6h14, 14h22h et parfois 22h6h. Ouais. Et en règle générale, j'essayais toujours de favoriser mon travail l'après-midi, donc je faisais 14h22h pour être avec Alexine le matin.
Pour l'emmener à l'école.
Pour l'emmener à l'école et puis pour être avec elle sur le repas du midi. Et puis ensuite, je la redéposais à l'école, je partais travailler et c'est son papa qui l'a récupérée à 17h et je la retrouvais... à 22h endormie le soir, quand je rentrais à la maison.
Voilà. Alors, quand vous étiez enfant, Alexine, est-ce que vous remarquiez déjà que votre maman travaillait beaucoup ?
Quand j'étais dedans, non. En fait, finalement, c'était davantage quand j'allais chez des amis à moi quand j'étais petite et je me rendais compte que la maman était présente. Présente à la fois physiquement, mais aussi dans l'investissement dans la vie des petites filles. Et c'est vrai que c'était plus quand j'allais à l'extérieur de la maison que je me rendais compte que ma maman n'était pas présente à l'intérieur de notre propre maison. Mais finalement... quand j'étais dans notre maison, c'était la normalité, c'était notre façon à nous de vivre et c'était... je connaissais rien d'autre.
Oui.
Et du coup, à l'époque, c'était un petit peu ma vision de la famille parce que la maman était absente et pour moi, c'était partout pareil, en fait, d'une certaine façon. Et c'est après, en grandissant, que la maturité allant avec, que je m'en suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre une famille classique, appelons ça comme ça, et notre famille à la maison. Voilà.
Alors, quand Alexine est entrée au collège, Christine, son papa ne vivait plus avec vous pour des raisons professionnelles. Et vous, vous avez décidé de reprendre vos études. Alors, quel impact ça a eu sur votre quotidien avec Alexine ?
Alors, effectivement, reprendre ses études, quand on a une adolescente, c'était un petit peu compliqué dans la mesure où moi, j'avais déjà mon travail qui était prenant. Et ensuite, j'allais à l'université, donc le lundi, le vendredi et le samedi matin. Et notamment, j'ai des souvenirs un peu émus parce qu'à cette époque-là, Alexine allait préparer son bac et elle prenait des cours de mathématiques de 17h à 19h. Et moi, je prenais ensuite les mêmes cours de mathématiques de 19h jusqu'à 21h pour pouvoir continuer mon cursus universitaire que j'ai dû reprendre de la base.
Le but, c'était de devenir directrice d'hôpital, c'est ça ? C'est
pour ça que vous avez...
voilà ce que vous avez réussi à être. Alexine, quels souvenirs vous avez de ces journées-là, alors le collège ? Donc, vous étiez adolescente, votre maman, en plus d'un travail ultra prenant, reprend des études. Et vous, dans tout ça, alors ?
Alors, ça a été le début de l'autogérance, on va dire ça comme ça. Surtout qu'à l'entrée au collège, on était dans une ville différente, donc il fallait tout,
bon, alors, la
il fallait tout commencer.
On va essayer de trouver un petit...
et Et du coup, en fait, c'était des journées qui étaient rythmées toute seule. Donc, c'était le début de cette vie toute seule où je me levais le matin. Maman m'est toujours au collège. Ça, c'était vraiment le moment de la journée où on se voyait tout le temps. On avait ce court moment, en fait, qui durait 5 minutes de trajet pour m'emmener au collège. Et après, par contre, le déjeuner au midi, j'étais toute seule. Parfois, je te rejoignais sur le lieu du travail, mais c'était assez, assez rare. Et après, en fait, vers 16-17 heures, l'école se terminait. Et là, j'étais toute seule. Mm-hmm. Donc, les devoirs toute seule, le repas du soir toute seule. Mais voilà, c'était encore une fois la normalité.
J'ai appris... surtout les repas donc, qui devaient être compliqués. Ouais. Parce que, je dirais, 6e, on a 11 ans, 12 ans.
Et on aime les choses simples et qui sont voilà, on ne part pas dans de la grande cuisine et puis on ouvre le frigo et on prend ce qu'on a aussi quoi. C'est donc
vous étiez bonne élève quand même.
Oui, parce que mine de rien, malgré cette absence, il y avait toujours maman qui était un peu dans les coulisses, on va dire ça comme ça, pour vérifier de loin que tout fonctionnait toujours. C'est-à-dire qu'il y avait une ligne conductrice qu'elle me permettait de loin de continuer à suivre, ce qui m'a toujours permis d'avoir une scolarité qui fonctionnait, pas trop sortir du droit chemin, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que sur le quotidien et sur les activités au quotidien, je me gérais tout seul.
Vous autogériez totalement. Mmh. Alors vers 14 ans, là, ça a commencé un petit peu à déconner. Vous avez développé des troubles du comportement alimentaire. Et vous nous avez dit en préparant cette émission, oui, c'était en rapport clairement avec l'absence de ma maman.
À l'époque, je ne m'en rendais pas forcément compte parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour comprendre que ce besoin de remplissage, disons ça comme ça, correspondait à un sentiment de solitude, en fait.
C'est ça.
Et de là, j'ai développé ce qu'après, j'ai pu comprendre étant des troubles du comportement alimentaire avec un phénomène de remplissage plutôt nocturne. Je me sentais toute seule. Je me sentais toute seule et c'était une façon de me rassurer, c'était une façon de m'apaiser. Mais ça, je l'ai compris bien après.
C'est ça. Ouais. Avec le recul, vous voyez le lien entre ces troubles alimentaires et vos absences, Christine ?
Tout à fait. Hein. J'ai pleinement conscience qu'effectivement, le fait qu'Alexine ait été souvent esselée fait qu'effectivement, la nourriture était aussi un palliatif pour elle, voilà, pour pallier cet esselement.
Bien sûr. Peut-être aussi un appel au secours. Hein, mais c'est vrai que quand on est absorbé par le travail, c'est compliqué. Alexis, vous avez quitté la maison à 19 ans, c'est ça ?
Tout à fait.
À ce moment-là, quelles étaient la nature de vos rapports avec votre maman ?
Je dirais correct. Il y a eu une période compliquée de l'adolescence où chacun, enfin moi j'essayais de comprendre qui j'étais, avoir ma propre identité. Donc c'est des moments où il y a des rapports parfois conflictuels entre les mamans et les filles. Et après finalement l'éloignement nous a un peu rapprochés dans le sens où comme il n'y avait plus le quotidien qui rentrait en jeu, on profitait davantage. Et sur les courts moments où on se voyait, du coup c'était du 100% à profiter. Donc finalement l'éloignement nous a rapprochés d'une certaine façon.
Christine a 27 ans, Alexine est tombée enceinte. Juste attention au micro, que ça ne fasse pas trop de bruit.
Pardon.
Mais oui, on est contraint. Hein, quand on fait de la télé, c'est compliqué avec les petits jouets et tout. Donc je le disais, à 27 ans, Alexine est tombée enceinte de cette petite merveille qui fait beaucoup de bruit, mais qui est tellement mignonne qu'on la pardonne. Alors vous habitez à ce moment-là à 600 km de chez elle, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'annonce de sa grossesse ? Qu'est-ce que ça vous a fait ?
Alors, c'était la première semaine de septembre. On était sur la terrasse de son appartement. Il faisait chaud, l'ambiance était un peu caliente. Et elle m'a dit, écoute, maman, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Donc, j'ai fermé les yeux. Elle me dit, je vais te mettre quelque chose dans les mains. Donc, elle me remet une enveloppe dans les mains. J'ouvre cette enveloppe. Et là, je vois sa première échographie. Donc, ça a été un grand moment d'émotion. Je veux dire, un tsunami d'émotion. J'étais vraiment remplie de joie parce que... Je trouve que, voilà, Alexine avait tellement envie d'être maman et effectivement, cette nouvelle était vraiment un accomplissement pour elle. Et puis, vraiment une grande, grande, grande émotion. C'était vraiment une grande émotion pour moi.
Alors après, Alexine, il y a eu le Covid, donc vous êtes peu vus hein, finalement à cette période-là.
Parce qu'on vivait loin l'une de l'autre.
C'est ça, parce que vous étiez à 600 km de distance, c'est pas rien. Mais il y a eu un coup de fil très marquant, une conversation qui a tout changé finalement.
En fait, dans cette nouvelle aventure qui faisait évoluer mon rôle de fille à celui de maman, j'avais, je pense, au fond de moi, un besoin d'éclaircir certaines choses. On échange, Céleste ? Un besoin d'éclaircir certaines choses et surtout de donner un point à des ressentis que j'avais eus dans l'adolescence, dans ma vie de jeune femme. Et ça sous-entendait avoir une conversation avec ma maman. Et
donc c'est vous qui l'avez initié.
Tout à fait. Ouais. Comme vraiment la façon de fermer un livre et d'en rouvrir un. En lui disant, tu sais, il y a eu des choses qui ont été difficiles, il y a eu un vécu qui a été difficile, il y a eu un chemin véritablement parcouru, et aujourd'hui, c'est important que je te le dise, c'est important qu'on mette au clair certaines choses pour pouvoir commencer dans cette nouvelle vie où nos rôles se redéfinissent, où nos rôles évoluent, où tu passes de mère à grand-mère, où moi, je passe de fille à mère, et c'était important qu'elle puisse entendre les choses que j'avais à lui dire. Pas du tout dans un contexte moralisateur, c'était pas du tout l'idée, c'était juste pour qu'on soit apaisées toutes les deux par rapport à notre histoire et qu'on puisse construire plus sereinement la nouvelle.
Christine, comment est-ce que vous avez reçu cette conversation ?
Alors, effectivement, quand il y a des mots qui sont mis sur du ressenti, c'est extrêmement éprouvant pour moi, mais à la fois, ça a été aussi un déclic, pour ma propre vie à moi et pour les choix que j'avais à faire à l'avenir. Et effectivement, on ne peut pas refaire le passé et on ne peut surtout pas compenser le passé. Et l'idée, c'est effectivement de faire des choix qui soient aussi en lien avec ce qu'elle m'avait dit et puis ce qu'on va construire à trois, parce que l'idée, ce n'est pas de construire des choses avec Céleste, c'est de construire des choses à trois et à cinq avec le papa et avec le papy Gilou. Mmh. Et effectivement, peut-être que cette conversation a certainement donné un tournant à ma vie. Et aujourd'hui, effectivement, je vais vous dire, je suis la plus heureuse des mamans, mais je suis aussi la plus heureuse des grands-mères.
Oui, et d'autant plus que... Alors, Céleste, elle est née le 18 avril 2021. Et vous avez quasiment... Enfin, vous avez carrément, même pas quasiment, c'est carrément changé de vie à la naissance de Céleste.
Exactement, puisque j'étais à 600 km. Donc, j'ai absolument cherché un emploi pour me rapprocher de ma fille. C'était vraiment l'objectif. Hein, et c'était partagé avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et effectivement, maintenant, je suis à une demi-heure de chez Alexine et de Céleste. Et ça, c'est un vrai changement dans la vie. Et c'est le meilleur changement que j'ai pu faire dans ma vie.
Quel regard vous portez sur la mère que vous avez été aujourd'hui ? Winnicott disait, c'était un pédiatre, un psychanalyste bien connu, il disait, on essaie d'être la meilleure mère possible. Vous pensez que vous avez été la meilleure mère possible dans ce contexte ? Alors, de travail ?
Je pense que être maman, c'est le métier le plus difficile au monde. On ne peut pas refaire le passé, mais j'ai conscience effectivement que le fait que j'ai été peu présente n'a pas été favorable à Alexine. L'essentiel, c'est ce que maintenant on construit ensemble. Mmh. Et c'est ça qui est le plus important, parce que voilà, depuis l'arrivée de Céleste, on revit des moments de bonheur intense ensemble. On fait plein d'activités ensemble. Et voilà, ma préoccupation actuelle, c'est que Alexine et Céleste soient heureuses et avec donc son papa et son papy, et qu'on ait un environnement familial qui soit extrêmement équilibré et qui nous épanouit toutes les deux, tous les trois et tous les cinq.
Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour.
Mais quel Agathe. Bonheur de vous avoir sur ce plateau.
Et quel bonheur de vous retrouver, merveilleux.
Voilà, un soleil à chaque fois que vous êtes là. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, oui. Nicole, vous êtes philosophe et vous êtes notamment auteur du livre « Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi ». C'est publié chez Robert Laffont. Ça fait envie, hein, ce titre. Hein. Alors, dans votre pratique, est-ce que vous observez fréquemment des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire un resserrement des liens entre générations à l'arrivée d'un enfant?
Ah oui, c'est vrai que c'est un très beau témoignage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont vécues entre les deux femmes, entre Alexine et Christine. Mais c'est vrai que quand je deviens mère, c'est vrai qu'il y a une complicité avec ma propre mère. Et donc, du coup, on change de place dans la génération et on se comprend autrement. On ne se regarde plus de la même manière. On se regarde vraiment comme adulte à adulte et on a quelque chose à partager. Et ce que j'ai entendu une phrase de la part d'Alexine magnifique, quand elle présente à sa mère, quand elle annonce à sa mère sa grossesse, elle lui dit « J'ai une surprise pour toi ». En psy, on dit, et c'est de la psychologie et de la philosophie, on dit qu'en tant que jeune femme, j'ai une dette de vie. envers ma mère. C'est-à-dire que j'ai reçu la vie par elle, et du coup, avoir à mon tour un enfant, à transmettre à mon tour la vie, finalement, c'est quelque part rendre un petit peu quelque chose de cette dette de vie à cette mère. C'est quelque chose qui se prolonge de génération. Mmh. Et du coup, j'ai envie de dire, il y a un lien identitaire, il y a un lien affectif autour du nouvel enfant, mais il y a ce lien existentiel qui est magnifique aussi, qui nous relie. Mmh. On transmet la vie à notre tour, et ça, c'est merveilleux.
Parfois, avec sa propre mère, du coup, quand on devient maman, il y a des ajustements à faire pour trouver la bonne place de chacune. Léa vous dit, ma mère s'en veut d'avoir été absente quand j'étais enfant. Elle veut se rattraper, mais elle surinvestit mon fils. Et je trouve que les rôles sont brouillés. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? C'est pas facile alors, à gérer, ça, la
maman. Non, effectivement. Et là, justement, quand Christine le disait tout à l'heure, on ne peut pas rattraper le passé. Je crois qu'il faut accepter qu'on n'a pas pu faire autrement. Il faut se déculpabiliser en tant que grand-mère. On n'a pas pu être une mère beaucoup plus présente. Les circonstances ne nous l'ont pas permis. Peut-être qu'on était trop pris par nos propres vécus, etc. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, il faut s'excuser soi-même. Et justement, pour trouver sa propre place auprès du petit enfant et non pas prendre la place un petit peu de la mère. Et du coup, effectivement, il y a ce qu'on appelle, nous, les frontières générationnelles. Oui. Il y a à préserver, justement, cette différence de génération.
Mais alors, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas froisser sa maman, mais en même temps, remettre les choses à leur place.
Léa, je pense qu'il faut elle aussi qu'elle ose dire à sa maman ou elle ose un petit peu canaliser le temps, décider que finalement, c'est à elle de décider le temps que sa maman va passer avec son petit garçon, sa petite fille, je ne sais pas, mais effectivement c'est à elle de donner le cadre, de donner le contour, sans froisser sa mère, bien évidemment, et en favorisant quand même ce lien, mais il faut qu'elle ose prendre sa place de maman. Il faut qu'elle ose. J'ai envie de dire, quelquefois je dis, pour que nos propres enfants nous obéissent, il faut avoir un peu désobéi à nos enfants, à nos parents.
Nos parents.
Et du coup, effectivement, il faut oser le dire gentiment, on n'a pas besoin de s'affronter, hein, mais qu'elle prenne sa place. Et ça commence par, maman, tu peux garder le petit ou la petite tel jour et pas un autre.
On a reçu une question que j'adore, d'Anouk, regardez.
Très bien.
Pour la maison des maternelles, si on trouve, en tant que grands-parents, que nos enfants sont trop durs ou trop sévères avec nos petits-enfants, comment en parler sans que ça ne tourne au conflit? Merci.
Généralement, c'est l'inverse.
Oui. Ouais.
Là, je dirais plutôt que les générations d'au-dessus disent « tu es bien trop coulante ». Moi, j'entends ça toute la journée.
Oui. Mais écoutez, ça me renvoie à mon propre rôle de grand-mère. Hein. Moi, j'ai appris une chose. Moi qui suis psy, qui adore parler avec mes enfants, depuis que je suis grand-mère, j'ai appris à me taire.
On garde pour soi.
Oui, on garde pour soi. Alors, tant qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est une confrontation de modèles et de représentations du rôle parental et que l'enfant va bien, on garde effectivement pour soi.
Oui, on parle pas de cas de violence ou de choses extrêmes.
C'est ça. Mais si on sent quand même que l'enfant peut être un peu souffrant, un petit peu de cette situation d'un parent trop autoritaire, on peut dire à son enfant, que ce soit le père ou la mère, on peut lui dire, et on ne l'accuse pas surtout, on ne juge pas le père ou la mère, parce que justement, ce qui est une chose difficile à prendre en compte quand on est un jeune parent, c'est être reconnu comme suffisamment bon parent par son propre parent. Donc on ne va pas blesser son enfant en lui disant « tu t'y prends mal ». On le dit plutôt « est-ce que tu ne crois pas que le petit-fils ou la petite-fille a un petit peu de difficulté ? Tu ne crois pas qu'il faudrait peut-être réfléchir à ça ?» On commence à parler de l'éventuelle difficulté de l'enfant, on n'accuse pas le parent de ce qu'il ne sait pas encore faire, et on va peut-être l'aider par notre questionnement, on va peut-être l'aider à ce qu'il se pose les bonnes questions.
C'est ça, donc on attire l'attention plus que d'accuser. C'est-à-dire, tiens, j'ai l'impression qu'il est un peu en colère.
C'est ça. D'après toi, on amène le parent à se poser les questions et on le guide finalement à se poser vraiment les bonnes questions et à s'interroger justement sur son propre rôle. Mais on ne va surtout pas lui dire tu fais mal. On ne va surtout pas.
C'est pas bon d'ingérer, quoi. C'est important de ne jamais en gérer dans l'éducation.
De ne pas être intrusif à aucun niveau, à aucun moment. Effectivement, surtout pas au niveau du jugement.
Théa qui dit « Ma mère était maltraitante avec moi, je suis maman depuis peu et elle n'a pas encore rencontré mon bébé. Les parents maltraitants reproduisent-ils les mêmes schémas avec leurs petits-enfants »
Heureusement, non. Ce n'est pas, en tous les cas, ce n'est pas systématique. Vous savez, en psy, on dit qu'il n'y a pas de destin psychique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose ou j'ai été comme ça à un moment donné que je vais l'être toute ma vie, heureusement.
Rien n'est figé.
Rien n'est figé, heureusement.
Et enfin, alors, ça, une fois qu'on a dit ça, on se met à la place de cette mère.
Qu'est-ce, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, bon, j'ai reçu quand même beaucoup de situations dans ce genre-là, dans cette difficulté-là, avec cette difficulté-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on reste vigilant. C'est-à-dire qu'on va peut-être être prudent, on va peut-être faire en sorte que les grands-parents puissent rencontrer le petit, mais en notre présence. On va un petit peu petit à petit après voir comment les choses se passent, on va observer le lien, la relation, comment elle se tisse, si effectivement du côté de la grand-mère ou du grand-père il y a des réactions un petit peu brutales, voilà, donc on restera toujours présent quand il y a une rencontre grands-parents, petit-enfant, et au fur et à mesure, si on est rassuré petit à petit, on peut peut-être laisser l'enfant dormir une nuit quand il aura peut-être un an et demi, quand on pourra mesurer peut-être les incidences aussi, il ne pourra pas le dire, mais on pourra voir aussi si en revenant de ses grands-parents, il est un petit peu stressé, on pourra se poser des questions. Donc, on y va petit à petit, par étapes et avec beaucoup de vigilance, mais si on arrive à gagner un peu de confiance, soit vis-à-vis de ses propres parents, ça transforme aussi pas mal la relation. Donc, voilà, ça nous fera du bien aussi à nous de pouvoir commencer à avoir confiance dans nos parents, parce qu'effectivement, on l'a bien vu, on a pu être une mère ou un père pas très présent et un peu difficile, et on peut devenir des grands-parents merveilleux. Et ça, c'est chouette.
Floriane vous dit, mes parents sont très durs. Moi, je suis très éducation positive. Chez eux, je me sens jugée sur mes méthodes et suis donc plus sévère. Comment faire pour ne pas être pour ne pas trahir mes valeurs en leur présence? C'est vrai que ce n'est pas évident. D'abord, de sortir du rôle d'enfant vis-à-vis de ses parents.
Tout et donc, à fait.
Comment on fait?
Non, mais ça, c'est tout à fait ce que je travaille aussi dans mon dernier livre. Là. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté, c'est quand on est jeune parent, c'est oser être un parent différent du modèle familial. Oser être soi. Et ça, c'est forcément quand on ose être soi, et c'est ce que n'arrive pas à faire Céléra.
C'est Floriane.
Ce que n'arrive pas encore à faire Floriane, puisqu'elle dévie un petit peu de sa propre position, c'est qu'elle n'a pas osé encore s'affirmer dans sa réalité à elle, dans sa réalité propre, devant ses propres parents. Il faut vraiment oser le faire, et c'est inévitable. Alors, on arrive à le faire quand on est suffisamment sûr de soi, et quand on s'émancipe du jugement parental. On en parlait tout à l'heure.
Il faut du temps.
Il faut du temps. Se dire, je pense que c'est très important quand Floriane dit je trahis mes propres valeurs. Non, il faut revenir à un alignement avec sa propre valeur, être suffisamment sûr de soi par rapport à ça pour laisser finalement la parole de la mère ou le jugement de la mère un petit peu au loin. Et ne pas être impacté par ce jugement-là.
Mais ça veut dire qu'il faut être prêt. On peut aller au conflit carrément parce que
en leur présence,
qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis avec ma mère ou mon père qui dit à mon enfant, oh mais non, tu touches pas à ce.
Non. Alors ça, vous avez raison, Karim. Effectivement, il faut dire, je suis la mère. Encore une fois,
en présence,
c'est dur.
Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez non seulement la face vis-à-vis de votre mère, mais aussi vous ne pouvez pas être considéré comme un parent par rapport à votre enfant. Si votre enfant vous voit continuer à être l'enfant de votre mère et plus assez la mère de lui, ce moment-là, vous n'êtes plus une figure ni rassurante, ni d'identification, ni d'autorité. Ça, c'est à ce moment-là que se joue ma place et la fonction maternante va se jouer là. Si j'ose dire à ma mère, si j'ose mettre le cadre, c'est moi la mère, je suis comme je suis, c'est moi qui veux. Alors, on n'a pas obligé de l'affirmer violemment, l'important, c'est de faire le geste. Maman, s'il te plaît, j'ai une autre façon d'éduquer mes enfants, c'est important pour moi ici. Quand tu feras ce que tu veux chez toi, mais c'est important que tu fasses. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que on le dit une fois, la grand-mère qui est pétrie de cette manière de faire continuera, mais petit à petit, ça va se réguler. Il faut laisser du temps aussi.
En tout cas, je pense, sur les grands préceptes, par exemple, entre la génération de mes parents et la mienne, il y a la fessée. Et il n'y a plus de fessée. Typiquement, moi, j'étais obligée d'expliquer à mes parents qu'il n'y avait pas, enfin, à mon père en l'occurrence, qu'il n'y a pas un cas où il y aurait une fessée quand il garderait mes enfants.
Il le respecte ?
Oui, mais enfin, bon, ça pourrait partir, donc je vais le répéter quand même régulièrement, c'est en disant, et leur père n'est pas d'accord, et ça, sinon, ils iront plus chez
c'est
vous.
C'est sûr. Non, ça, c'est
donc,
important.
Donc, j'ai vraiment dit que je n'irais plus chez lui s'il y avait
ça. Il ne faut pas hésiter d'être clair, c'est ça.
Hein, il
ne faut pas hésiter d'être clair. Encore une fois, ce n'est pas forcément dans le conflit, etc., mais c'est poser ce que l'on est, et encore une fois, en faisant ça, on est rudement éducatif par rapport à nos enfants. Il voit ce que c'est qu'être soi, c'est que se poser dans sa différence, et de s'affirmer. Hein, donc, on gagne sur tous les tableaux, et souvent, les grands-parents se sentent même libérés d'un rôle un peu carcan dans lequel ils ont pu se mettre. C'est peut-être ça. Même les grands-parents vont commencer à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'ils étaient, ce dans quoi ils s'étaient mis, finalement, et qui peut-être même considéraient comme un carcan. Mm-hmm. Donc, on libère.
À partir de quel âge l'enfant est pleinement conscient de l'absence de sa maman, nous demande une téléspectatrice. Mon enfant est gardé par ma maman et elle vous demande s'il peut y avoir une confusion dans son esprit sur sa place.
Alors, tout dépend justement comment la grand-mère et la maman se différencient l'une de l'autre. C'est vrai qu'en règle générale, alors que l'enfant soit gardé par la grand-mère, ce n'est pas ça qui pose problème. C'est vraiment comment ce que la mère va transmettre à son enfant. Alors, il y a encore une fois des rôles différents. La grand-mère va transmettre un certain nombre de valeurs. En général, elle est plutôt là pour les moments de loisir, même si elle le garde, elle va pas se poser dans un rôle éducatif. Elle va plutôt être dans un rôle un petit peu d'ouverture sur le monde, de participer à des jeux, de prendre le temps de faire ce que les parents n'ont pas le temps de faire. Donc, elle a une place un petit peu différente, alors que les parents sont censés dire à l'enfant vraiment de poser un peu plus les règles, d'attendre de lui qu'il apprenne un peu à l'école, etc., un certain nombre de choses. Donc, le rôle éducatif, c'est vraiment aux parents de le mettre en place. À partir de quel âge, ressentir l'absence d'un parent, c'est très subjectif et tout dépend de la manière dont cette absence est vécue. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de Christine et d'Alexine, c'est-à-dire que la maman était absente, mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses entre elles. Le lien, c'est-à-dire que ce n'est pas l'absence physique qui va poser un problème, c'est que si, quand on est avec l'enfant, on a une relation suffisamment proche, sans être culpabilisé, qu'on échange beaucoup, qu'on le considère, qu'on est à son écoute, s'il y a quelque chose de très grande qualité, ça peut supporter un peu d'absence. Mais si par exemple, quand on est avec lui, on n'entretient pas grand-chose, là il peut en souffrir, et il peut en souffrir très tôt. Mais alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on en souffre à un moment donné qu'on va en souffrir tout le temps.
C'est ça. Hein,
c'est ça. Rien n'est figé dans le marbre. Heureusement.
C'est bien.
Alors, Lou vous dit, j'ai eu une fille de 6 ans. Ma mère m'a beaucoup mis la pression sur l'alimentation et le poids depuis toujours. Elle a eu des TCA. J'en ai eu moi-même à l'adolescence. Comment éviter ça à ma fille ?
TCA, trouble du comportement alimentaire.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui me semble important à faire passer aux jeunes parents, c'est que pour aider nos enfants à grandir, donc justement pour leur éviter finalement certaines souffrances qu'on a pu avoir nous dans une place d'enfant, pour ne pas les répéter, pour casser le processus de répétition, il y a une chose à faire, c'est nous à grandir. C'est comment aujourd'hui je vis cette question de conduite alimentaire. Comment moi aujourd'hui je me situe par rapport à la question de l'alimentaire. Est-ce que ça vient compenser un trouble? Est-ce que ça vient compenser une angoisse, etc.? Et si moi je résous pour moi-même cette question du comportement alimentaire, je ne vais pas le reporter sur mon enfant. Je le reporte si moi je suis toujours ou en conflit avec ma mère, si j'en veux encore à ma mère de ceci, etc. Mais me dire aujourd'hui, donc là encore une fois, c'est s'affronter soi-même finalement. Hein. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour moi vraiment l'alimentaire? Est-ce que c'est une compensation? Est-ce que c'est un plaisir? Et une fois que cette jeune femme, cette jeune mère sera au clair avec cela, ça n'aura plus de lien avec les générations précédentes, mais ce sera elle, et du coup elle va transmettre quelque chose, une histoire nouvelle hein, par rapport à l'alimentaire.
Bon, il y en a dont on ne parle pas là.
Alors,
le papa.
Eh ben, c'est ce que je me disais.
Alors, Nicole,
mais justement.
Pourquoi vous voulez pas parler de nous?
J'ai eu un message qui est passé. Les parents, mais c'est vrai, les papas.
Il y a des messages justement qui vous demandent globalement, est-ce que les questions se posent de la même manière pour les pères, les relations père-grand-père?
Oui, alors c'est vrai que un de mes sujets préférés aussi, ce sont les nouveaux papas. Mm-hmm. Dire, les papas, aujourd'hui, je les admire, hein, toute la génération de papas de 30-35 ans.
Benjamin, là, il est au top. Là.
Oui, non, dire, non, là, il est au top. Mais
j'ai 36 ans, donc je ne suis pas dans cette génération.
Voilà, j'inclus mes enfants qui ont 40 ans, donc j'ai inclus mes filles qui ont 40 ans, donc ça peut aller jusque-là. Parce qu'effectivement, ils ont une place, ils revendiquent une place qui était dite très maternante, et effectivement, cela se joue de la même manière. Alors, on n'aura pas la même complicité d'emblée entre père et grand-père, parce que, encore une fois, la grossesse, pour l'instant, ce ne sont que les mères qui peuvent l'avoir, hein, je veux dire, pour l'instant. Mais il y a quand même une complicité et une transmission importante. Hein. Et il y a... Alors, c'est plus facile de devenir un père à sa manière par rapport à un grand-père, parce que les grands-pères ont bien saisi qu'ils n'étaient pas du tout suffisamment présents et qu'ils sont très heureux, c'est ce que je vois moi autour de moi, ils sont très heureux de voir que leurs enfants, leurs fils, osent prendre une part importante dans l'éducation de leurs enfants, de leurs propres enfants. Et je pense que cette génération-là de papas ose, c'est plus facile d'oser être un père différent par rapport au modèle de grand-père qu'une mère différente par rapport à un modèle de grand-mère.
Merci à Nicole Prieur d'avoir accepté de venir parler de ce sujet, et merci à Christine et Alexine d'être venues jusqu'à la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, quand vous le souhaitez en podcast, et puis tous les matins, 9h30 France 2, ciao tout le monde.